épisode 70 du podcast Aliments Passion. Aujourd'hui, je vous parle de bière sans alcool, de saucisse du magicien, ainsi que quelques trouvailles que j'ai faites pendant la Beer Run du Sud. Et c'est parti! Salut le Foodie, ici Roger, ton Crazy Chef. Bienvenue au podcast Aliments Passion, épisode 70 déjà. Écoute, ça va vite, je suis super content d'être déjà rendu à ce chef-là. Va tout de suite liker les pages de médias sociaux d'Aliments Passion, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter. Tu vas voir toutes les photos de ce que je te parle aujourd'hui, ainsi que les dernières nouvelles quant au podcast. Donc aujourd'hui, pour commencer, je vais commencer par te parler de bière sans alcool. Je trouve toujours que c'est intéressant d'avoir un petit bloc de temps en temps sur le sans alcool. C'est toujours bien de pouvoir prendre un verre, mais c'est toujours le fun d'avoir des alternatives là, qui nous permettent, là, entre autres, là, de finir les soirées ou de finir les événements. C'est toujours le fun, comme je vous dis, on prend un verre ou deux. À un moment donné, on a à conduire, on est chez des amis, on est en quelque part, d'avoir des bières sans alcool pour pouvoir continuer là, d'être dans la fête là, ou dans la célébration, peu importe ce qu'on est. Des fois, on a des amis, on veut continuer à être dans le party puis d'embarquer sur de l'eau plate ou même d'une coke diète. On perd un peu ce feeling-là. Fait que d'avoir des belles alcools, des beaux produits, en fait, sans alcool, je pense que c'est quand même rendu assez important. Là. On sait tous qu'il faut faire attention de ne pas conduire là, en état d'ébriété. Donc, les bières sans alcool, ben, c'est peut-être là, un des produits qui a le plus, évidemment. Donc, personnellement, je les ai pris, comme je vous ai déjà dit, je suis dans un band, là, dans la musique, et puis je suis quand même à 35, quand je vais faire ma pratique, je suis peut-être à 35-40 minutes de la maison, là, dépendamment là, des soirées où il y a du trafic. Puis, je trouve ça important là, de quand même, là, je suis là pendant 3 heures, une demi-heure aller pendant 3 heures, je suis pour prendre une coupe de bière là-bas. Ou bien je m'amène une bière normale puis des sans alcool, mais comme tu vois là c'était trois bières sans alcool que j'ai acheté là aux petites frettes de Chambly cette fois-ci. C'est sur mon chemin, donc c'est super facile pour moi d'arrêter de prendre quelques produits différents. Donc le premier produit dont je vais vous parler, en fait les deux premiers produits dont je vais vous parler là, viennent de la même maison. Il s'agit là de la microbrasserie Farnham Ale and Lager de ma région natale, là, dans les cantons de l'Est, donc dans la ville de Farnham. La microbrasserie fait plusieurs beaux produits, là, des produits autant bière à boire, entrée de gamme de base, que des produits plus évolués, donc j'aime beaucoup qu'est-ce que Farnham fait. Ils ont quelques produits sans alcool, donc j'y étais là, avec la Zéro Blonde sans alcool, là, donc une bière là, à 0,5% d'alcool et 18 IBU. Une bière là, quand même tout en rondeur, là, on voyait clairement le côté qu'il avait essayé d'exploiter, là, donc cette espèce de rondeur-là, beaucoup de céréales, une pointe de malt et de miel qui était très intéressante. Par contre, de mon côté, là, il y a toujours un petit peu dans certaines sans alcool, j'en ai déjà parlé souvent, l'espèce de côté de grain cru là, qui revient un peu. C'est pas toutes les bières qui ont ça. Certaines l'ont et mon palais, moi, décèle beaucoup certains trucs qui vont chercher de l'amertume. Ce côté de céréales crues vient un peu chercher ça, là, ce côté un peu âcre, un peu amer. C'est pas du tout dominant, c'est juste qu'il est présent et c'est une saveur que personnellement, j'apprécie pas tant que ça. Mais elle est présente, comme je vous dis, mais c'est loin d'être dominant. Sauf que je la décèle et puis ça me titille un peu. Là. Ça fait que j'apprécie pas autant ce produit-là que j'apprécierais un autre. Mais sinon, comme je vous dis, c'est un beau produit d'une belle rondeur. Sinon, des belles saveurs, le côté céréal est très, très là. Cette espèce de petit côté de mielleux un peu là, dans la sans alcool faisait intéressant, ce qui fait que ça donnait un peu plus un effet d'une dorée plutôt là, qu'une bière blonde, donc un très beau produit quand même. Donc, la Zéro Blonde sans alcool de Farnham Ale and Lager, produit quand même là, tout à fait correct là, pour une sans alcool. On y va à 3,25 sur 5. Le deuxième produit que j'ai essayé là, est encore évidemment, comme je l'ai dit, de Farnham Ale and Lager. C'est la Zéro Blanche sans alcool. Donc, une bière blanche qui a essayé d'être là, un peu plus là, dans l'esprit des wheat beer, donc des bières de blé. C'était assez limite. Ça n'a pas été, encore une fois, là, la saveur de céréales crues, là, de grains crus, en fait, était encore présente. Puis un peu plus encore dans celle-là, le fait là, que c'était une bière de blé, on aurait dit que cette saveur-là n'était pas tant travaillée. Il y avait une légère pointe de sucre, quand même quelque chose d'intéressant. On goûtait que c'était, ça se voulait une blanche. À ce niveau-là, il n'y avait aucun problème. Si vous êtes amateur de bière blanche et que vous recherchez un produit sans alcool, à ce niveau-là, vous allez le retrouver. Comme je vous dis, il y a une pointe de sucre dedans. Donc, ça amène ce petit côté là, quand même un peu plus sweet, un peu plus léger là pour une bière sans alcool. Mais je trouvais qu'il y était même encore là, un petit... une petite barre là, en dessous là, de la bière blonde là, que je vous ai parlé juste avant, qui finalement là, donnait peut-être un peu plus sur le côté d'une dorée. Fait que, j'ai été quand même, je pense, généreux. J'y ai donné une note de passage. La blanche sans alcool là, de Farnham Ale and Lager. J'ai donné un 3 sur 5, mais c'était limite. Comme je vous dis, une saveur quand même assez ronde, quand même claire. On goûtait que c'était une bière blanche, là, un test à l'aveugle. Si vous êtes un petit peu habitué à ce type de bière-là, c'est clair que vous identifiez une bière blanche. Mais ce côté-là de grains crus avec la saveur de blé, je trouvais que ça commençait à être pesant là, dans ce genre de saveur là, vraiment très grain, très, très céréal, qui n'avait pas été rôti, qui était justement, c'est vraiment le cru, c'est vraiment le feeling que ça donne. Et puis ça faisait que ces saveurs-là s'additionnaient, puis ça donnait encore plus un effet un petit peu plus désagréable. C'était quand même un produit sans alcool là, qui était raisonnable. Je peux pas dire que je ne reboirai jamais de ce produit-là, mais si j'ai un choix, je vais sûrement aller avec un autre produit, ne serait-ce que même là, d'essayer la blonde que j'ai quand même trouvée d'un niveau supérieur, là, avec ses côtés un peu plus de céréales, un peu plus travaillées, ses petites pointes. Comme je vous dis, la rondeur du miel. Donc, un produit quand même correct. Pour la blanche d'inspiration Wheat Beer là, sans alcool de Farnham Ale and Lager. Un 3 sur 5. Il se fait beaucoup de produits sans alcool sur le marché. Pour des produits de base comme ça, je pense que ça vaut quand même la peine peut-être là, si vous recherchez une blanche sans alcool, de faire vos recherches, savoir le produit qui va vous plaire le plus, qui va plus être dans vos cordes. Personnellement, celui-là était un peu moins dans les miennes. Il se fait beaucoup de produits qui vont peut-être un peu plus tomber dans ma palette au niveau du sans alcool. Mais quand même, 3 sur 5 pour la zéro blanche sans alcool de Farnham Ale and Lager. La troisième bière sans alcool là, que j'ai goûtée était dans un registre là, complètement différent. C'est de la microbrasserie Le Bazar Brasserie Artisanale de Montréal. C'est la Wow Nepa DDH Citra, donc IPA. Sans alcool, à 0,5% d'alcool, en fait. Donc, c'était la version là, sans alcool là, de leur DDH Citra régulière, la NEPA Wow, qu'ils ont régulièrement là, sur leur ligne de production. Une bière là, quand même très, très, très aromatique, quelque chose de très intéressant. On avait beaucoup de fruité, beaucoup d'agrumes, légèrement sweet, pas trop sucré. Ça peut arriver souvent avec... on parle de sans alcool, mais même en général, pour les NEPA, les New England IPA, des fois, ça balance trop là, dans le fruit, dans le tropical. Le fruit vient un peu trop là, tout enrober la bière, puis on perd beaucoup de subtilité et de saveur qu'on veut goûter. Là, c'était quand même bien exécuté, un beau dosage. Les houblons choisis se marient bien, ça a été bien contrôlé. La bière est assez douce, pas particulièrement agressive. J'aurais... peut-être pas penser, là, en goûtant à l'aveugle encore un produit comme ça, que c'était nécessairement une bière sans alcool. Par contre, il y avait une espèce de côté un peu plus léger, peut-être un petit peu moins fermenté, un petit peu moins effervescent aussi, là, qui m'aurait peut-être donné l'impression, ou que peut-être que si on m'en aurait appris là, que par après que c'était une bière sans alcool, j'aurais fait comme « Ah oui! » Mais je suis pas sûr que c'est la première chose auquel j'aurais pensé en goûtant cette bière-là, là, comme je vous dis, à l'aveugle en temps normal. Donc, un super beau produit. C'est un produit qui était un petit peu plus cher. Là. Les produits là, de Farnham Ale and Lager étaient des produits là, qui se détaillaient. Là, la canette là, de 471 ml traditionnelle là, de la microbrasserie. Donc, là, une canette là, qui équivaut à une pinte était à 3,99 $ plus taxes et consignes. Celle-là, si je ne me trompe pas, je l'ai pas pris en note. Ah là là, je m'en veux quand je fais ça. Je pense que c'était plus vraiment plus cher. Là. Je pense que ce produit-là était à 5,49 là, mettons, là, pour la canette du même format. Donc, c'est vraiment parce qu'on veut acheter là, des produits sans alcool, parce que c'est plus ce que c'était, où la bière sans alcool était vraiment moins chère. Des bières sans alcool de microbrasserie sont rendues à peu près le même prix là, qu'une canette avec alcool ordinaire. Donc, ces choix-là, là, sans alcool, sont vraiment des choix personnels. Ça n'a plus rien à voir avec le côté financier. J'aurais pu avoir là, des sans alcool qui étaient plus chers que certaines bières que j'achète. Et au contraire aussi, là, j'ai des bières sans alcool comme celle-ci, qui est un petit peu plus chère là, que d'autres bières avec alcool que je vais acheter, mais qui m'ont donné là, un produit d'une autre qualité. Là. Donc ça, c'était vraiment plus un produit intéressant. Comme je vous dis, on est dans la New England IPA en plus, là, donc un type de bière qui a la cote là, depuis quelques années. Là. C'est quand même une IPA avec un côté beaucoup plus doux, beaucoup plus fruité, à la limite beaucoup plus crémeux. Donc ça amène ce côté-là qui est beaucoup plus populaire présentement. Et le fameux goût, là, comme je vous dis, de grain cru, et si voilà, faut pas que je dise ça trop vite, n'était pas du tout présent dans la bière là, de Bazar Brasserie Artisanale. Donc un produit que j'ai particulièrement aimé, c'est un produit qui était un petit peu plus cher, mais certaines fois, là, je pense que ça vaut peut-être la peine de dépenser ce $1.50 de plus, là, $2 à la limite, pour une canette, si on est pour avoir un produit qui fait plus notre affaire. Je pense que tant qu'avoir un produit qui va pas être dans nos palettes de saveurs, si c'est dans votre palette de saveurs, ça va. Mais si ça ne l'est pas, des fois, là, d'aller essayer un produit, une pièce plus chère à la canette, va peut-être faire une différence là, entre quelque chose de le fun que vous n'aurez pas honte, puis que ça va vous tenter de boire plutôt que d'avoir quelque chose qui est sans alcool, juste pour être sans alcool. Comme je vous dis aujourd'hui, les produits sans alcool sont au même prix que les bières là, de régulières avec alcool, donc ça vaut pas la peine. De juste retrouver la moins chère, pas boire quelque chose que vous n'aimerez pas. Il se fait des beaux produits. Trouvez ce que vous aimez et achetez-le. C'est aussi simple que ça. Donc, pour la WOW NEPA DDH Citra sans alcool de Bazar Brasserie Artisanale à Montréal, on y va avec un 3.5 sur 5. Et c'est ce qui termine le premier bloc des bières sans alcool pour aujourd'hui. Pour le deuxième bloc, je vais vous parler là, d'un saucissier que je vous ai souvent parlé. Je l'ai nommé là, le magicien des saveurs, Louis-David Douville là, de Saucisse et compagnie de Chambly, que j'ai découvert là, tout au début là, que je faisais le podcast. Là, il commençait à peine, sa boutique n'était même pas ouverte. Là, il avait juste mis une annonce sur Facebook, puis il trouvait le moyen de vendre. Là. Puis j'ai découvert les produits que ce gars-là faisait, puis c'est vraiment là, un passionné, puis un tripeur, puis vraiment, comme je vous dis, un magicien des saveurs. Il a toujours trouvé moyen là, de me surprendre quasiment à chaque fois que j'ai acheté quelque chose de différent chez lui. Donc, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas été faire un tour à sa boutique. Il n'était pas présent, mais j'ai quand même acheté là, 4 sortes de saucisses différentes. D'ailleurs, il n'était pas là, mais j'ai comme trouvé ça drôle, là, le jeune homme qui était de garde là, à la boutique ce jour-là. Me voit, puis je sais pas où il m'a reconnu, parce que je vais souvent là jaser avec Louis-David quand j'arrête, où il appelle tout le monde chef. Mais je vois, puis il me rentre, puis il dit « Bonjour chef, ça va? » J'ai juste trouvé ça drôle, j'ai dit « Soit il appelle tout le monde chef, puis j'ai pas remarqué, soit je suis rendu un habitué là, que même le personnel commence à reconnaître. » Donc j'ai pris des saucisses un peu différentes, là, un peu plus dans le mix là, traditionnel que Louis-David là, nous a habitués. C'est des gros paquets. Là. Il ne fait pas toujours des paquets là, de 4 saucisses, là, mais là, tous les paquets que je vais vous avoir parlé aujourd'hui sont des paquets de 4 saucisses. La première, là, un paquet de 320 grammes 4 saucisses pour $14. La saucisse Cheeseburger Double Super Size Me. Donc, vous vous rappelez là, du film là, Super Size Me là, où le gars mangeait que du McDo là, pendant 30 jours, 3 fois par jour exclusivement. Bon, donc ça faisait un peu honneur à ça. Il a réussi. Écoutez, ça goûtait vraiment là, le cheeseburger du McDonald's. Ça fait 100 ans que j'ai pas mangé de McDo. Mais ça me rappelait vraiment là, le cheeseburger au bacon. Qu'est-ce que je me rappelais du moins dans mon souvenir là, du McDo. Donc ce côté de viande grillée là, un peu la moutarde, le ketchup, les oignons, le pickle. Toutes ces saveurs-là étaient là. Par contre, écoute, j'ai pas obligé de... Je suis obligé de le mentionner, mais je pense pas que c'est nécessairement là, un problème d'exécution. C'est peut-être moi au niveau de la cuisson. Je trouvais que la saucisse était particulièrement pâteuse. Est-ce que c'est moi là, qui a mal cuit mes saucisses, là, ce batch-là? Je ne sais pas. Toutes les autres étaient correctes. Celle-là, par contre, là, on avait quatre saucisses, comme je vous dis, dans le paquet. Puis les quatre avaient cette espèce de côté-là, un peu pâteux. Pâteux, c'est un peu violent. Mais pour vous donner une idée, là, c'est pas une texture aussi dure, là, aussi clean, puis avec un bite là, autant que j'étais habitué. Donc, ça m'avait vraiment surpris. C'était pas pantoute là, dans le type de texture auquel j'étais habitué des saucisses de saucisses et compagnie. Donc, est-ce que c'était juste un défaut ou, comme je vous dis, c'est moi là, qui a mal cuit ce batch-là? Je le mentionne, mais comme je vous dis, je mets un gros bémol là-dessus. C'était peut-être de ma faute parce que j'ai jamais vu ça dans les saucisses de Louis David. Donc, c'est sûr que, comme je vous dis, je ne suis pas un fan de McDo, mais la saveur, comme je vous dis, de boulettes grillées, fromage, pickle, là, avec ces saveurs, quand vous goûtez du McDo, ben, ces saveurs-là étaient là. Très bien exécutées, super belle surprise. Les saveurs punchaient partout. On goûtait toutes ces petites délicatesses-là différentes qu'il y aurait dans le cheeseburger. Donc, pour la saucisse cheeseburger bacon Super Size Me, j'y vais avec un 3.5 sur 5. Ensuite, la deuxième saucisse, c'est la saucisse Bloody Caesar au crabe. Vous vous rappelez quand j'ai été chez Madame Bovary, là, dans un épisode que je vous ai parlé dans des restaurants, que j'avais pris un Bloody Caesar, puis ça faisait longtemps que j'avais pas pris ça, justement, là, parce que on était rendu qu'on mettait toutes sortes là, de garnitures dans le Bloody Caesar. Dans le Bloody Caesar, puis que ça n'avait plus de bon sens. Bon, ça avait commencé là, au début, je pense que c'était ça, là, c'était des Bloody Caesar avec des pâtes de crabe et des crevettes. Puis après ça, ben, les gens se sont emportés. Donc, la saucisse au Bloody Caesar et au crabe, ça goûtait vraiment... Écoutez, la saveur de Bloody Caesar était là, on goûtait très clairement la saveur de crabe, là, la saveur de sweetness, de la chair, très très bien exécutée. Ça m'a beaucoup surpris, puis je me suis dit, une saveur aussi délicate que le crabe, je pensais pas là, que c'était pour sortir tant. En fait, le crabe goûtait beaucoup Bloody Caesar, je vous dirais moyen à pas du tout. La seule saveur qui sortait là, peut-être du Bloody Caesar, c'était le côté palourde qu'il y a dans le Clamato qui sortait très fort. Donc, les produits de la mer sortaient beaucoup dans cette saveur de saucisse-là. Sinon, le côté Caesar, où est-ce qu'on aurait eu la sauce Worcestershire, du sel de céleri, des épices comme ça, peut pas dire, même le côté tomaté, peut pas dire que ça sortait énormément. Mais le côté des produits de la mer, le crabe goûtait, là, c'était clair à première bouchée. La délicatesse, le sweetness du crabe sortait. Et ensuite, là, comme je vous dis, la saveur de palourde était probablement celle qui était la plus dominante dans le reste de la saucisse. Donc, on comprenait un peu où ça s'en allait, mais j'aurais aimé avoir là, peut-être un petit peu plus de saveur là, au niveau tomaté, ce côté un peu plus sweet. Là. Mais sinon, belle exécution, des belles saveurs. C'est des saveurs qui étaient quand même là, faciles. J'aurais pensé que ça aurait été le contraire, que le Bloody Caesar peut-être aurait été un peu plus dominant que la délicatesse de la saveur du crabe. Mais hey, super belle saveur, ça a été quelque chose de différent, super intéressant. Une très belle saucisse en général. Donc, pour la saucisse Bloody Caesar au crabe, là, qui goûtait le crabe, comme je vous dis, à côté, on y va avec un 3.5 sur 5. Encore une fois, là, un autre beau paquet là, de 4 saucisses. 320 grammes pour 14$. Une des forces des produits de Louis David, c'est que non seulement ils sont bons, ils sont différents, mais ils sont extrêmement abordables. Il n'y a pas beaucoup d'autres places où vous allez pouvoir avoir des produits de cette qualité-là à des prix abordables. Il y a moyen d'avoir là, des petits paquets de 2-3 saucisses à 5-10$. Vous allez avoir 3-4 saveurs en bas de 20$. Vous allez pouvoir faire une dégustation à la maison, bien manger. Et sans vous ruiner, écoutez des beaux produits artisanaux du Québec. La troisième saucisse de Saucisse et compagnie était la saucisse au short rib de bœuf, foie gras, truffe noire et gelée de Porto. Une saucisse avec une très belle texture. Là. J'ai beaucoup aimé là, quand la chair est un petit peu plus serrée comme ça. Personnellement, j'aime que la chair soit grindée. Un petit affaire plus gros, mais c'est bien savoureuse, bien compactée. Là. C'est quand même toujours super intéressant. Donc, une saucisse avec une super belle texture. On goûtait vraiment là, la sweetness là, de la gelée de Porto, très délicat, mais il y avait beaucoup de saveurs qui étaient là, absentes. On avait la sweetness du foie gras là, dans certaines bouchées, là, surtout j'ai remarqué dans le bout de la saucisse. Je sais pas s'il y avait du foie gras puis qui a fondu puis que ça s'est dirigé dans les pointes de saucisse à la cuisson. Mais dans le milieu de la saucisse, là, il y avait très peu, voire pas de saveur de foie gras là, dans nos bouchées. Par contre, comme je vous dis bizarrement, là, dans le bout de la saucisse, là, on goûtait là, en finale là, le foie gras qui revenait un petit peu au palais. Le côté viandeux braisé du short rib, je peux pas dire que je l'ai décelé. Ça m'a quand même beaucoup surpris. C'est vraiment pas dans ses habitudes. Là, c'était quand même beaucoup de saveurs. Puis j'en ai beaucoup que j'ai pas retrouvé. Le côté truffe était complètement inexistant. Je regardais un peu les ingrédients. Il y avait que du sel de truffe. Peut-être que c'était pas assez là, pour sortir du lot. J'ai vraiment pas eu de saveur de truffe dedans. Peut-être si on aurait été avec une essence de truffe mélangée dans le mélange, on aurait eu un peu plus de punch ou une huile de truffe. Là, le sel de truffe, j'ai l'impression que c'était trop peu dans tout cet amalgame de saveurs-là pour qu'il ressorte. Donc, une saucisse avec beaucoup moins de saveurs là, qu'à l'habitude. C'est très rare. Là. Je peux pas dire que j'étais déçu, c'est pas vrai. Mais beaucoup moins de punch, de succession de saveurs qui fait là, le trademark de Louis David. Donc, la saucisse short rib de bœuf, foie gras, truffe noire et gelée de Porto. Quand même une belle saucisse, comme je vous dis, la texture était parfaite. J'aime beaucoup là, ce côté là, bien snappy, bien fait. Évidemment, des casings de qualité naturelle, ça fait une grosse différence. Il y a encore des saucissiers artisanaux là, qui utilisent des casings artificiels. Je peux pas croire, là, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a rien à voir là, dans la confection de saucisse artisanale. Donc, quand même, là, comme je vous dis, il y avait la gelée de Porto là, qui était là, qui était quand même assez présente. Une belle délicatesse, un beau sweetness, un petit peu de foie gras. J'aurais aimé que les autres saveurs là, soient présentes et se succèdent dans le palais là, comme c'est l'habitude de ce que les saucisses que Louis David fait. Malheureusement, là, ça l'a manqué là, à sa réputation. Là. Je trouve que c'est pas à la hauteur de ce que j'ai goûté, de ce qu'il fait d'habitude. Ça restait quand même une saucisse qui était délicieuse, mais il y avait trop de saveurs annoncé sur le paquet là, que je ne goûtais pas. Donc, pour cette saucisse-là, j'y vais avec un 3.25 sur 5. Quand même plus que la note de passage, la saucisse était excellente, mais il manquait des saveurs là, qui étaient annoncées auxquelles je m'attendais, qui auraient sûrement donné un petit punch supplémentaire. Et la dernière, une saucisse toute en simplicité, une saucisse polonaise à l'ail fumé, un paquet là, de 380 grammes pour 12$. Donc, des saveurs très simples, une saucisse fumée. Là, on avait vraiment là, le casing avait un petit bite supplémentaire justement parce qu'elle avait été fumée au préalable. Une chair ultra goûteuse, la viande. Quand que je vous dis là, une exécution d'un produit simple, quand que c'est vraiment bien fait, c'est bien au-delà de la moyenne. On a exactement l'exemple ici. Pas compliqué, comme je vous dis, c'est une saucisse polonaise à l'ail. Vous allez pouvoir trouver ça dans à peu près n'importe quel saucissier. Mais là, ça a été parfaitement exécuté. Des excellentes saveurs. Fumé à point. Pas trop, pas que la saveur de fumée soit dominante. La saveur de la viande était ultra présente. On goûtait l'ail, on goûtait les épices. C'était des saveurs simples. Il n'y en avait pas 85, il y en avait 3-4, ce que j'apprécie énormément. Et c'était super bien fait. Toutes les saveurs étaient là. Tout le monde avait sa place, ça goûtait, la texture était belle, l'exécution était parfaite. C'est des saucisses comme ça là, avec lesquelles tu ne peux pas te tromper. Si vous êtes moins aventureux là, au niveau des saveurs là, des saucisses artisanales, ça devrait être exactement le type de produit que vous recherchez. Un petit peu moins cher que les autres en plus. Là. Donc, la saucisse polonaise fumée à l'ail, un home run comme Louis David sait si bien les faire. Un 5 sur 5 facile, c'était parfait, tout était là, les saveurs étaient bonnes, la texture était bonne, le côté fumé était parfait, bien dosé, on reconnaissait là, le doigté et l'exécution parfaite de Louis David. Précipitez-vous à Chambly, là, sur la rue Simard, il y a plein de beaux produits, allez faire le plein, et c'est ce qui termine le deuxième bloc pour aujourd'hui. Pour le troisième bloc, là, je vais vous parler de petites trouvailles que j'ai faites pendant le beer run là, qu'on a fait sur la rive sud de Montréal dans les microbrasseries que je vous ai parlé là, à l'épisode précédent, l'épisode 69. Donc, à travers ces microbrasseries-là, il y a quelques places où je pouvais acheter des produits différents. Ce que j'ai fait, et je vais vous parler là, des produits que j'ai achetés. Pas tous, en fait. Là, la dernière place là, que je vais vous parler... était là la distillerie et microbrasserie et vignoble Kobloff où j'avais acheté là, une bouteille de rosé que je peux pas vous parler pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas bu encore, donc je vous parlerai pas de quelque chose que j'ai pas goûté. Et je suis en train de préparer là, un épisode là, plus tard là, sur des vins et d'autres produits licoreux du Québec. Donc, ça va aller dans cet épisode-là quand je vais vous parler. Donc, on va commencer par les deux premiers produits que j'ai pris étaient là, à la Kanawake Brewing Company, donc sur la réserve de Kanawake. On a mangé là, à la brasserie. Je vous avais parlé du repas à l'épisode 68 et je vous ai parlé des bières à l'épisode 69. Donc, si vous voulez avoir là, des informations, vous savez aller quel épisode écouter. Tout d'abord, là, j'ai acheté un saucisson qui est fait là, à partir d'une de leurs bières et qui, comme plusieurs saucissons dont je vous ai déjà parlé, là, est fait par la compagnie La Saucissonnerie qui fait des produits indépendants eux-mêmes et ils font beaucoup de produits associés là, avec des microbrasseries pour mettre en valeur là, leur bière. Donc, ça fait un petit snack food là, aromatisé qu'ils peuvent autant vendre dans leurs établissements qu'ils peuvent mettre là, dans les épiceries. Les dernières fois, souvent, là, j'avais acheté ces produits-là là, dans des racks à travers là, les côtés microbrasseries dans les épiceries où il y a un peu partout là, au Québec. Donc, le saucisson à la bière là, de Kanawake Brewing Company, un saucisson de 80 grammes. J'ai perdu ma facture de Kanawake, malheureusement. C'était probablement des alentours là, de 10-12$. Et encore une fois, là, si vous achetez là, directement à la microbrasserie de Kanawake, ben, c'est sur une réserve. Donc, les produits vont être le prix affiché puisqu'il n'y a pas de taxes sur les réserves. Donc, un produit d'environ, comme je vous dis, de 80 grammes, environ une douzaine de dollars. Un beau produit très bien en deux. Un produit sec. C'était vraiment un type saucisson. C'était pas du tout là, dans la famille du jerky, qui est là, cette espèce de saucisse qu'on peut prendre et puis prendre une croquée. Là, puis il va être assez moelleux, assez malléable pour ça. Là, même, c'est sûr qu'il est une certaine grosseur, là, mais même plus petit, c'est un saucisson qui est vraiment sec. Donc, ça serait vraiment pas possible là, d'essayer de prendre une bouchée. Puis de... Non, bon, vos dents ne te feront pas. Essayez pas ça. Là, puis ça va être trop chewy. Là, vous ne pourrez pas apprécier le produit. Donc, couper des petites rondelles fines à servir là, avec une petite bière. Super intéressant. Donc, un saucisson, justement, pas trop salé. C'est un autre truc qui arrive des fois trop souvent avec ce type de saucisson-là. On était trop fort sur le sel, sur le nitrite, et là, ça rentre directement juste le sel dans le palais. On perd là, les délicatesses, la bière, la viande, évidemment. Donc là, c'était vraiment très bien dosé, pas trop salé, un bon goût de bière. On goûtait vraiment, je ne vais pas vous dire quelle bière, laquelle des bières de Kanawake Brewing Company c'était, mais il y avait une saveur très claire de bière. On n'avait pas à se poser la question, la saveur était là. Très bien faite, une belle exécution, un bel amalgame. Le porc, le sel, les épices, la bière, ça aurait pu facilement là, prendre un contrôle un peu plus d'un bord ou de l'autre. Personnellement, beaucoup apprécié. C'est le genre de petit saucisson là, que j'aime bien avoir, en prendre une petite bière tranquillement. Évidemment, étant donné qu'il n'est pas trop salé, on ne va pas se mettre à ambitionner. Ça prend un peu plus de sel pour la bière, un peu plus de bière. Là, ouais, bon, vous comprenez le principe. Non, on va rester ça raisonnable. Quelques slices, un verre de bière. On ne fera pas d'abus là, avec des mauvaises excuses. Donc, un super beau saucisson, comme je vous dis, très viandeux. Pas du tout native jerky et avec un très beau contrôle de salé, viande, épices. Bière, toutes les saveurs étaient là. Belle exécution. On y va avec un 3.75 sur 5 pour le saucisson sec de la Kanawake Brewing Company. Ensuite, l'autre produit que j'avais acheté là, à la Kanawake Brewing Company est une bière de garde. Là. C'était la Kanawake GWB, une Farmhouse Ale de saison de 8.9% d'alcool. La Kanawake GWB est en fait une saison de culture mixte vieillie 2 ans dans un fût de bourbon, donc une bouteille de 750 ml à 8.9% d'alcool. J'ai vraiment pogné de quoi. Habituellement, ces bières un peu plus vieillies là, un peu plus travaillées, c'est souvent des stouts là, d'avoir une saison, donc d'avoir une bière qui est plus proche là, d'une lager évidemment qu'une bière noire. Moi, complètement, j'étais par terre, je ne savais pas à quoi m'attendre et j'ai adoré. Ça a été vraiment là, un petit chef-d'œuvre. Une bière sweet et acidulée, presque crémeux là, dans l'exécution. Un vieillissement en bourbon très clair. On goûtait bien les saveurs étaient claires, étaient punchées. J'étais très surpris, vraiment, comme je vous dis, là, de l'exécution pour vieillir une bière, là, une saison Farmhouse Ale en tonneau pendant 2 ans avec autant de succès. Comme je vous dis, c'est un procédé qu'on associe beaucoup au niveau des bières aux stout, aux bières noires. Et là, d'arriver avec cette farmhouse-là vieillie pendant 2 ans qui a ramassé autant de saveurs et que ça lui a autant donné, ça l'a autant bonifié, que ça l'a autant donné de corps, c'est vraiment là, une des très, très bonnes bières de microbrasserie que j'ai goûtée en m'attendant absolument à rien. Il restait 2 bouteilles. Là. Il y avait celle-là qui était en fût de Bourbon, puis je pense qu'il y en avait une autre en fût de vin rouge, si je me rappelle bien. J'étais avec mon chum Yves, c'est lui qui a acheté l'autre bouteille. Il a eu la gentillesse de me laisser celle vieillie en Bourbon, sachant que j'ai un gros faible pour le Bourbon, donc c'est vraiment tombé dans mes cordes. Mais c'était vraiment un super beau produit. J'ai hâte d'entendre ce que Yves va avoir à me dire par rapport à sa bière vieillie. Là. Il me semble que c'était ça. En fût de vin rouge, ça va vraiment donner un autre aspect complètement différent. Mais là, vraiment, là, le côté avec le Bourbon, le côté boisé, sweet, là, qui venait du fût de Bourbon, est vraiment rentré dans la bière et ça s'est parfaitement marié avec le petit côté légèrement acidulé, un très, très gros hit. Évidemment, là, une bouteille de 750 ml à 8,9% d'alcool, ben, un fil doux après. Fait que c'est vraiment pas une bière à boire. Mais au niveau de la bière de dégustation, si vous voulez faire une trouvaille, là, si vous avez le moyen de mettre la main là-dessus, je pense que ça va vraiment valoir la peine. Donc, de Kanawake Brewing Company, la Farmhouse Ale, Kanawake GWB, là, vieilli 2 ans en fût de Bourbon. Un hit, je vous dis, un 4,5 sur 5. Réellement, là, une des meilleures bières de microbrasserie que j'ai bu. C'était vraiment là, particulièrement fort. Un gros, gros hit. Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, n'hésitez pas. Le dernier produit là, que je vais vous parler vient du vignoble Coblotte, là, donc de la microbrasserie Ross Stall. C'était là, ce petit trésor caché là, à Saint-Bruno de Montarville qu'on a découvert, qui est là, en fait sur le Grand Boulevard Ouest à Saint-Bruno. Vraiment un petit trésor, comme je vous dis, là, autant que c'est vignoble. Vignoble que j'ai pas goûté des produits encore, mais distillerie et microbrasserie, il y a vraiment de quoi là, de très intéressant. Comme je vous ai dit, là, j'en avais parlé même là, au propriétaire du petit frère de Chambly et il a été faire un tour et il a tombé en amour lui aussi. Là, il ne pouvait pas croire que juste à côté, c'était littéralement, je pense, 7 ou 8 minutes du petit frère de Chambly. Il y avait une si belle maison qui faisait des si beaux produits que personne n'était capable de savoir là, qui c'était. Donc, j'ai acheté un gin, une bouteille de 500 ml, le gin Gundermann, G-U-N-D-E-R-M-A-N-N. Ça se vendait là, au prix de 40$. Vous devez l'acheter sur place parce qu'il n'y a aucun des produits de vignoble Coblotte, là, de la distillerie ou de la microbrasserie qui est en vente là, à la SAQ. Donc, il faut absolument aller sur place là, ou voir là, quelques places où il pourrait l'avoir sur les tablettes d'un petit magasin. Donc, un gin tout en simplicité. Là, l'alcool est fait sur une base de marc de raisin du vignoble avec des aromates de lierre sauvage et de genévrier. La lierre sauvage, je vous ferai une petite recherche sur Internet, là, c'est une herbe là, qui pousse là, au Québec, qu'on boit assez régulièrement, qui est quand même aromatique. Ça prend un peu le dessus là, au niveau du nez quand que vous sentez le gin. Vous n'aurez pas nécessairement là, une odeur de gin qui va être très habituelle, surtout avec les gins là, extrêmement aromatiques là, qu'on est habitué au Québec depuis des années. Là, on y va dans une extrême simplicité. Là, c'est vraiment les deux seuls aromates qu'il y a dedans. Donc, les seules notes que vous allez là, déceler sont justement ça. La lierre sauvage, le genévrier et le côté là, de raisin là, qui est la base là, de l'alcool, de la distillerie qui est faite au vignoble Coblotte pour faire le gin Gundermann. Un produit très intéressant, comme je dis, différent. À l'odeur, au début, vous allez avoir l'impression que ça sent quasiment la tequila, cette espèce d'un peu là, herbacée qui vient de la lierre sauvage. Ça va quand même pas perdurer là, en bouche. Vous allez avoir, oui, ce goût de végétal-là, mais il va avoir un goût très raisin avec le genévrier, complètement différent, mais qui ramènera un peu plus aussi là, à un gin de base. Là. Donc, un peu moins avec beaucoup de fruits et beaucoup d'épices. On va vraiment là, se contenter de quelques épices. Ça va être très aromatique et on fait quand même l'alcool maison. Là. C'est pas avec un achat de d'alcool distillé qui font juste aromatiser. Chose pour laquelle j'ai un petit peu moins de respect, là, quand même, qu'il y a beaucoup de maisons qui le font. Mais là, ils font vraiment tout de A à Z. Et ils utilisent de A à Z les produits et les sous-produits de ce qu'ils font déjà. Donc, ils essayent de réutiliser au maximum les produits qu'ils produisent eux-mêmes là. Donc, j'ai beaucoup de respect pour cette façon-là d'opérer. Comme je vous avais dit, là, leur bière belge était vieillie là, dans le fût de leur Porto qu'ils font. Donc, ils essayent vraiment d'utiliser au maximum tout ce qu'ils produisent. Ça fait un gin qui est vraiment différent, qui a beaucoup de punch, mais qui est quand même beaucoup plus dans la simplicité que dans la complexité des épices et des fruits qu'on voit dans les gins d'aujourd'hui. Peut-être pas le gin qui va plaire à tout le monde. C'est quand même assez surprenant, assez fort, assez punché. Mais j'ai un produit qui va être quand même très intéressant. Goûtez-y tout d'abord, peut-être là, juste avec une petite lasse, tout simplement. Vous allez peut-être faire le saut au début, puis vous habituer un peu plus après. Et ensuite, là, allez-y là, avec un gin tonic, peut-être, là, et, ou encore votre gin cocktail que vous préférez. Et on s'y fait très rapidement, et ça fait vraiment un produit très intéressant, différent, pas moins bon pour autant, mais ça fait vraiment la partie du charme de cette place-là. Ils font les choses à leur façon, ils font leurs choses eux-mêmes. Ils se plaisent beaucoup à pas essayer de faire plaisir à tout le monde, à pas essayer d'embarquer sur un bandwagon. Ils font leurs choses à eux et ça les honore complètement. Et en ce qui me concerne, c'est vraiment un produit qui est différent, que j'aime beaucoup. Et ça fait vraiment le goût d'aller retourner. Là. Je sais qu'ils font, là, j'ai regardé sur leur site, ils font entre autres le brandy qui nous avait fait goûter, là, qui nous avait fait tomber par terre. Là, ça n'avait aucun bon sens. Et ils font 3-4 eaux de vie différentes. Là, donc j'ai bien hâte d'aller essayer. Entre autres les vins, là, donc la bouteille que j'ai ici, et d'aller voir là, les autres spiritueux qu'ils font. Donc pour le gin Gourdermann, cette bouteille de 500 ml à vendre à 40$ là, directement au vignoble, j'y vais avec un 4 sur 5, un produit différent, goûteux, mais dont j'ai beaucoup de respect là, autant pour l'exécution que pour les saveurs traditionnelles. Bien hâte d'avoir les autres produits qu'ils font, aller découvrir ce petit trésor caché qui est, comme je vous dis, la distillerie et vignoble Koblot et la microbrasserie Rostal. C'est tout dans la même bâtisse. Les liens sont toujours sur les pages là, des médias sociaux. Allez découvrir ce petit bijou. Et c'est ce qui complète l'épisode pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le 70e épisode du podcast Aliment Passion. Allez vous abonner là, partout, abonnez-vous, mettez un 5 étoiles, mettez un commentaire, c'est bon là, pour nous faire connaître des algorithmes de toutes les plateformes. On est sur les plateformes les plus populaires, évidemment, Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast. Sinon, peu importe où vous écoutez vos podcasts, que ce soit Podchaser, Podcatcher, Balado Québec, iHeartRadio, on est partout. Si jamais Aliment Passion n'est pas sur votre plateforme favorite, envoyez-moi un message et assurez-vous de me dire où vous écoutez votre podcast et où n'est pas Aliment Passion. Je vais m'assurer que vous ayez votre podcast favori sur votre podcatcher favori. Si jamais vous achetez des produits ou vous l'écoutez des choses que je vous ai parlé pendant les podcasts, n'hésitez pas d'abord à m'envoyer un message et à me faire part de vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous allez rencontrer des producteurs, des restaurants dont je vous ai parlé, dites-leur que c'est grâce au podcast Aliment Passion là, que vous les avez découverts. Ça va faire voyager le nom du podcast là, et on va pouvoir là, faire de plus en plus de choses dont je vais pouvoir vous parler. En attendant, ici Roger, ton crazy chef qui te rappelle, faut arrêter de faire des recettes, il faut cuisiner. Bye bye!